Bonjour chacun. Merci vraiment à l'équipe Louange, merci à Marcos pour cette première partie du culte qu'on a pu vivre ensemble. Merci pour ce choix de chant qui était vraiment judicieux, vraiment à propos. On a chanté hein, que les anges ensemble acclament la puissance du nom de Jésus. On a chanté dans ce dernier chant hein, que à cause de sa mort et de sa résurrection, les anges acclament, ils adorent Jésus. On va parler des anges ce matin. Le titre de cette prédication, c'est le suivant: Jésus plus qu'un ange. Si vous prenez des notes comme ça, vous pouvez tout de suite marquer le titre: Jésus plus qu'un ange. On démarre une nouvelle série ce matin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a étudié ensemble dans les dernières semaines les trois premiers chapitres du livre de l'Apocalypse. On a étudié ces sept lettres aux églises. On a étudié ce que l'Esprit dit aux églises. Et on a essayé d'être attentif. On a été repris parfois quand l'Esprit voyait un certain problème dans les églises et qui reprenait l'église par rapport à ça. On a été encouragé parfois par certaines forces de certaines églises. Après, on a eu cette toute petite série de Pâques. On s'est rappelé à l'approche de Pâques de l'humiliation de Christ. On s'est rappelé des souffrances de Christ. Et on s'est rappelé de la mort et de la résurrection de Christ. Et ce matin, on commence une nouvelle série qui va nous mener pendant quelques dimanches. On va étudier ensemble l'Épître aux Hébreux. Peut-être vous connaissez ce livre, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est très connu. Si vous ne le connaissez pas, si vous avez une Bible, je vous invite d'ores et déjà à l'ouvrir au chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux. Si vous n'avez pas de Bible, n'ayez pas honte, mieux vaut que vous ayez le texte devant les yeux. Donc levez la main, il y a Max qui est là, il a des Bibles avec lui. Vous pouvez sans autre lever la main et puis essayer de trouver l'Épître aux Hébreux. Ça se trouve tout près de la fin de la Bible. Dans cette section, on a les lettres du Nouveau Testament. On a premièrement la lettre aux Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Oula, en fait, la liste est longue. Hein. 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux. Et là, quand vous avez trouvé Hébreux, vous y êtes. Juste quelques remarques préliminaires. Je suis rempli d'humilité en abordant ce texte de l'Épître aux Hébreux. En commençant d'étudier ce texte, je me suis rendu compte qu'il y avait quatre difficultés qui ressortaient dans ce texte. Première difficulté avec l'Épître aux Hébreux, c'est qu'on ignore à peu près tout du contexte de la rédaction de l'Épître aux Hébreux. On ne connaît pas l'auteur de cette lettre, on ne connaît pas les destinataires de cette lettre, on ne connaît pas l'année de rédaction de cette lettre, on ne connaît pas les circonstances dans lesquelles l'auteur a écrit cette lettre. On ne connaît pas le contexte de vie ni la localisation géographique où les destinataires de cette lettre vivaient. Et du coup, c'est un petit peu difficile de comprendre le contexte. Mais en même temps, on va le voir. Ce que l'auteur de cette lettre veut faire, c'est qu'il veut nous faire comprendre que Jésus est plus que tout. C'est le titre de toute la série, hein. Jésus est plus que tout. Et alors, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu voulait ou pas? J'en sais rien, hein. je suis pas dans la pensée de Dieu. Mais on peut se dire, mais ça fait du sens, hein, de penser qu'une lettre dont le but est de focaliser sur Jésus-Christ, le but est de mettre toute notre attention sur Jésus-Christ, on ignore tout du contexte. On ignore qui est l'auteur, on ignore qui sont les destinataires, parce que le seul but de cette lettre, c'est de mettre en avant Jésus-Christ. Deuxième difficulté de ce texte, c'est que, vous le verrez, il y a des sections assez longues. On a étudié les lettres aux églises, c'était des sections toutes courtes. À chaque fois, on étudiait 6-7 versets, et ça faisait du sens, parce que Dieu, quand il a inspiré cette section-là, cette partie-là de la Bible, il a voulu que ce soit des parties très courtes. Mais dans l'Épître aux Hébreux, Dieu a vraiment, on s'en rend compte, et je pense que vous allez vous en rendre compte là avec cette première étude, il a voulu démontrer les choses avec beaucoup de mots, et il utilise beaucoup d'arguments pour arriver à une fin. Et je pense que ça ne ferait pas justice à l'Épître aux Hébreux si on l'étudiait en section très courte. Si on veut pouvoir comprendre vraiment le contenu, il faut qu'on l'étudie dans le rythme dans lequel l'auteur l'a écrite. Troisième difficulté de ce texte, c'est un texte qui est probablement, avec l'Apocalypse, dans tous les écrits du Nouveau Testament, c'est probablement le texte qui est le plus enraciné dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on l'a appelé d'ailleurs l'Épître aux Hébreux. On se rend bien compte à la lecture que ça s'adresse à des Hébreux qui connaissaient l'Ancien Testament, qui avaient grandi avec ça. Seulement, nous, il faut l'avouer, on a une connaissance beaucoup moins importante de l'Ancien Testament. On n'a pas grandi dans cette connaissance-là. Et du coup, ça nécessite de se plonger encore et encore dans l'Ancien Testament pour comprendre cette lettre aux Hébreux. Quatrième difficulté, c'est mon ignorance personnelle. J'ai jamais étudié l'Épître aux Hébreux, je dois vous le dire. On va la découvrir ensemble, dimanche après dimanche. Je me réjouis de faire ça avec vous, de découvrir ce que le Seigneur a voulu nous transmettre par cette lettre aux Hébreux, cette Épître aux Hébreux. Donc, d'un côté, je suis rempli d'humilité, mais de l'autre côté, je suis rempli d'une grande joie. On va découvrir ensemble que Christ est plus que tout. On va, enfin, je l'espère, on va être frappé tout à nouveau par la gloire, par la grandeur, par la toute-puissance de Jésus-Christ. Vous savez, peut-être, si vous ne le savez pas, je vous le dis ce matin, avec les anciens, depuis quelque temps, on réfléchit à comment, enfin, quelle est notre vision en tant qu'Église, où est-ce qu'on veut aller. On a une vision, mais on ne sait pas toujours comment vraiment la vivre, comment la traduire en acte, et on est en train de réfléchir à ça. Et c'est vite fait, quand on réfléchit à notre vision, de partir dans des choses vraiment secondaires. Et on a besoin, et on l'a dit et redit avec les anciens, on a besoin sans cesse de revenir à l'essentiel. On a besoin sans cesse de comprendre encore et encore que Jésus est plus que tout. Que Jésus est le centre, il est le cœur de nos vies, le cœur de notre foi. Il est au centre de tout. Et du coup, je pense que ça fait sens d'étudier maintenant, à cette étape de la vie de notre Église, cette Épître aux Hébreux. Et on va voir que Jésus est plus que tout. On va lire maintenant les deux premiers chapitres de l'Épître. C'est des chapitres qui sont assez courts. Et vous verrez que ce que l'auteur nous dit dans ces deux chapitres, ce n'est pas si compliqué que ça. Le texte peut paraître un peu long, mais ce qu'il nous dit n'est pas si compliqué que ça. Seulement pour nous aider à bien comprendre le fil du texte, je ne vais pas lire le texte d'un coup, je vais le lire et donner des explications au fur et à mesure. Vous avez trouvé, je pense, maintenant le texte de l'Épître aux Hébreux, et je vais commencer la lecture par simplement les trois premiers versets. « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » Il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli, au travers de lui-même, la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Premier verset. C'est l'introduction, hein. Et comme souvent dans l'introduction, enfin comme souvent dans les introductions des lettres du Nouveau Testament, l'auteur nous donne un avant-goût de sa lettre. Il nous montre en trois versets à quel point Christ est plus que tout. Il est le Créateur, il est l'héritier, il est la source du salut, il accomplit la purification des péchés, il est tout, il est plus que tout. Si vous avez compris ces trois versets, vous avez compris l'intention vraiment de l'auteur de cet Épître aux Hébreux. On comprend là où il veut nous mener. Et ces trois versets, ils sont d'une richesse incroyable, exceptionnelle. Je ne vais pas m'attarder sur ces trois versets, parce que c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure des semaines. Par contre, première application de cette prédication, je vous invite cette semaine à prendre un moment pour lire ces versets, de les lire vraiment mot à mot. Pourquoi pas même les apprendre par cœur, trois versets. Trois versets qui nous montrent à quel point Christ est central dans notre vie. Ensuite, il attaque le premier volet de son épître. Il nous dit que Jésus est supérieur aux anges. C'est ça vraiment qu'il veut traiter dans ces deux premiers chapitres. Et vous verrez, il y a deux volets. Je vous lis simplement le verset 4 du chapitre 1. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. Premier verset, il va nous démontrer que Jésus est supérieur aux anges. Ça, c'est ce qu'il va faire dans tout le chapitre 1. Et puis, à partir du chapitre 2, je vous donne un peu la structure, comme ça, ça va vous aider à suivre. Il nous dit « c'est pourquoi ». Et il passe à la phase d'application. Qu'est-ce que ça change dans nos vies que Christ soit supérieur aux anges ? Et il nous dit « c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu. » Puisque Christ est supérieur aux anges, en résumé, en fait, nous devons juste l'écouter. Il est tellement glorieux, il est tellement grand que nous devons l'écouter. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Première partie donc, Christ est supérieur aux anges. C'est un petit peu comme un mathématicien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de maths. En mathématiques, on a des théorèmes et on a des démonstrations qui permettent de valider des théorèmes. Et si vous vous souvenez de vos cours de maths, souvent on part d'un postulat et puis ensuite le prof dit « voilà, je vais maintenant démontrer cette vérité-là ». Et puis il va peut-être passer par plusieurs lignes de démonstration, des théorèmes très complexes, des fois des pages même de démonstration. Et puis à la fin, il écrit CQFD, hein, ce qu'il fallait démontrer. Voilà, vous voyez que la vérité de départ est réelle. C'est un petit peu ce que fait l'auteur ici. Il commence en disant « Christ est supérieur aux anges ». Et puis ensuite, il va donner les arguments pour démontrer ça. Il va donner pas mal d'arguments, il va beaucoup se fonder dans l'Ancien Testament. Dans ces deux chapitres, il va citer 9 fois l'Ancien Testament. Et on va voir tout de suite qu'il donne 3 arguments pour démontrer que Christ est supérieur aux anges. Premier argument, je le lis à partir du verset 5. « En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Waouh ! Premier argument. À chaque fois, vous verrez ces arguments, il fait un contraste entre Jésus et les anges. Jésus est appelé par Dieu lui-même, le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Alors que les anges, de l'autre côté, eux, ils sont appelés à se prosterner devant Jésus-Christ. Un contraste énorme. Jésus est le Fils de Dieu et les anges sont appelés à se prosterner devant lui. On l'a chanté tout à l'heure, hein, que les anges ensemble acclament la puissance de son nom. Premier argument, premier contraste. Deuxième argument, deuxième contraste. Je continue la lecture à partir du verset 7. De plus, vous voyez que c'est un nouvel argument puisqu'il commence par de plus. Hein. De plus, au sujet des anges, il dit « Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. » Mais il dit au Fils « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les enrouleras comme un manteau. Ils seront remplacés comme un vêtement, mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. » Deuxième contraste. Les anges, d'un côté, il nous dit ici qu'ils sont en fait des créatures. C'est Dieu qui les a fait, et il a fait de ces anges des esprits. De ses serviteurs une flamme de feu. Ils sont des serviteurs, des créatures de Dieu. Alors que Christ, de l'autre côté, lui, il a les attributs de Dieu. Il est éternel. Il est créateur. Il est totalement différent, totalement supérieur aux anges en ce qu'il est Dieu. Il a les attributs de Dieu. Deuxième argument. Troisième argument que l'auteur nous présente ici, à partir du verset 13 et aussi le verset 14. Enfin, donc on voit que c'est le troisième argument, puisqu'il commence par « enfin ». « Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied ? Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut ?» On voit que ça va dans le sens de ce que Marcos disait tout à l'heure. Les anges sont des esprits aux ordres, au service, pardon, de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont à hériter du salut, donc à ceux qui vont devenir chrétiens ou à ceux qui sont chrétiens. Les anges sont des esprits au service de Dieu pour apporter de l'aide à ces gens-là. Qu'est-ce qu'on voit? Quel est le contraste ici? Christ, Jésus, est appelé ici, en fait, le roi. Il est le roi parce que Dieu le fait asseoir à sa droite et il met tous ses ennemis sur son marchepied. Il est roi, c'est lui qui règne. Alors que les anges, de l'autre côté, les anges, eux, sont des serviteurs. Ils sont au service de Dieu. On a donc trois contrastes frappants. Hein. Il est fils et eux, ils proclament le fils. Il est créateur éternel et eux, ils sont des créatures. Il est roi et eux, ils sont serviteurs. CQFD. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous a montré clairement que Christ est supérieur aux anges. On n'a aucun doute, après ce chapitre, que Christ est supérieur aux anges. Pourtant, on pourrait se dire, mais les anges sont tellement glorieux. Quand on voit des descriptions d'anges dans les prophètes, ou dans l'Apocalypse, ou dans d'autres passages de la Bible, les anges sont tellement glorieux. À la fin de l'Apocalypse, Jean se prosterne devant un ange pour l'adorer, tellement cet ange est glorieux. Et l'ange lui dit, non, ne fais pas ça, moi je suis ton compagnon de service, adore Dieu seul. Mais on se rend compte que ces anges sont tellement glorieux, et pourtant Christ, on l'a vu par ces trois contrastes, est infiniment supérieur aux anges. Et on passe maintenant dans la deuxième partie, l'application. Et c'est super parce que parfois on se demande comment on peut appliquer certains textes de la Bible. Mais là, l'auteur nous le donne directement. Hein. Il nous écrit au chapitre 2, verset 1, « C'est pourquoi, comme j'ai déjà dit, hein, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. » Christ est tellement glorieux en étant supérieur aux anges que nous devons l'écouter. Nous devons prêter attention. Et si nous ne faisons pas ça, nous allons à notre perte. Et là, je vous montre que de nouveau, il va nous donner trois arguments. Puisque Christ est supérieur aux anges, nous devons l'écouter parce que. Trois arguments. Si vous regardez juste les deux premiers mots du verset 2, il est écrit « en effet ». Au verset 5, « en effet ». Au verset 10, en effet, trois arguments que l'auteur va nous donner. Voilà pourquoi, puisque Christ est supérieur aux anges, vous devez l'écouter. Premier argument, donc je le lis, c'est à partir du verset 2, chapitre 2, verset 2. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Premier argument, et pas des moindres, c'est puisqu'il est supérieur aux anges, il est la seule source possible de salut. Il est le seul à pouvoir nous sauver. Il est clair ici, hein, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? On vit dans une société pluraliste, hein, où on aime à penser, dans notre culture, que voilà, toutes les manières de voir le monde, toutes les philosophies de vie se valent d'une certaine façon. On aime aussi à penser que toutes les religions se valent. Vous avez peut-être déjà entendu cette image de la montagne. C'est comme si Dieu était en haut d'une montagne, et puis chaque religion est un chemin qui nous permet de monter vers Dieu en haut de la montagne. Ce verset-là, cet argument-là de l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est faux, c'est impossible. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Christ est le seul à pouvoir apporter le salut parce qu'il est supérieur aux anges, parce qu'il est Dieu en personne, il est le seul à pouvoir apporter le salut. Il n'y a pas d'autre chemin. Si Dieu avait pu épargner son fils, croyez-moi, il l'aurait fait. S'il avait pu avoir un autre chemin, Dieu aurait mis toute son énergie à nous faire découvrir cet autre chemin et il aurait épargné son fils. Il n'y a pas d'autre chemin. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Et ce salut, il est fiable, il est digne de confiance. Hein. Il a été annoncé par le Seigneur, par Jésus lui-même. Il a été ensuite confirmé par ses disciples, par les apôtres. Et on a accès à cette confirmation par ce qu'ils ont écrit dans le Nouveau Testament. Ils ont été aussi confirmés par des signes, par des miracles que Jésus a fait, que les apôtres ensuite ont fait, qui ont attesté de la vérité de ce qui se passait. Et puis finalement, ils ont été attestés, validés par le fait que le Saint-Esprit a distribué des dons conformément à sa volonté. Il a construit l'Église au fil des siècles. Ce salut est validé, il est clair, il est central. Et on ne peut pas échapper au jugement si on néglige un si grand salut, si on n'accepte pas que Jésus a pris notre condamnation par la foi. Et si on ne prend pas sa justice par la foi, on ne peut pas hériter du salut. C'est impossible. On ne peut pas échapper en négligeant un si grand salut. Et je pense que là, il y a vraiment un avertissement aussi pour nous, peut-être qui fréquentons des églises, une église peut-être même depuis des années. Ce n'est pas juste un avertissement pour ceux qui connaissent rien de la Bible. C'est un avertissement aussi pour nous qui fréquentons une église depuis des années. Est-ce que vraiment nous focalisons toute notre attention sur ce si grand salut? Ou est-ce que nous négligeons ce salut? Est-ce qu'on porte toute notre attention sur des choses secondaires, sur des choses peut-être dont la Bible parle, ou peut-être sur des choses dont on aime parler dans notre milieu ou dans notre église? Mais comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? L'Évangile, le salut en Jésus-Christ, le fait que Christ est mort à la croix, qu'il est ressuscité, doit être central dans notre pensée. Il n'y a rien qui peut être supérieur dans notre pensée. Rien qui doit prendre cette place-là, parce qu'on ne sera pas sauvé si on néglige ce salut-là. Deuxième chose que l'auteur nous dit, à partir du verset 5, je vous le lis. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Qu'est-ce que l'auteur nous dit ici? Il nous dit que Christ a toute l'autorité. Il a toute l'autorité. Il apporte le salut, mais en fait, qu'est-ce qui nous dit que Christ pouvait apporter le salut? Eh bien, c'est parce qu'il a toute autorité. Il est celui qui pouvait nous sauver, le seul, parce qu'il est supérieur aux anges, parce qu'il a reçu de Dieu toute autorité sur toute la création. Il est roi, il règne parfaitement sur toute la création. Et le dernier argument maintenant, un argument aussi auquel on ne pense pas souvent, mais un argument sur lequel l'auteur de l'Épître aux Hébreux revient plusieurs fois. Je vous le lis à partir du verset 10. « En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée et encore, je me confierai en lui ». Et enfin, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, Il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre, rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Dernier argument, c'est le fait que Jésus est devenu un homme. Il fallait, pour pouvoir nous sauver, il fallait qu'il ait toute autorité. Mais pour pouvoir aussi nous sauver, et c'est là ce dernier argument, il fallait qu'il vienne nous chercher. Il fallait qu'il vienne au fond de notre trou. Il fallait qu'il prenne cette condition humaine, qu'il vive l'humanité pleinement. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est fait homme pleinement, totalement. Il a été tenté comme nous. Il a vécu toutes choses comme nous. Et du coup, il peut comprendre notre situation et il peut nous sauver parce qu'il s'est fait homme. Il fallait ces deux arguments. Hein. Premièrement, il est le seul à pouvoir nous sauver. Deuxièmement, il a l'autorité, mais il fallait aussi, il s'est fait homme. Et du coup, il est légitime. Il a le pouvoir de nous sauver. Voilà, on a fait le tour de ce premier thème, que Christ est supérieur aux anges. Jésus est plus qu'un ange. Mais comme toujours, il faut qu'on se pose la question quand même. Qu'est-ce qu'on fait avec ce texte? Comment on doit le vivre au quotidien? Vous avez sans doute déjà des idées. Hein, il ne faut pas qu'on néglige un si grand salut. Vous savez aussi que vous devez cette semaine relire les trois premiers versets du chapitre 1. Hein, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Prenons un peu de recul. Ce que l'auteur nous dit ici, c'est deux choses. Jésus est plus qu'un ange. Et au chapitre 2, il nous dit, c'est pourquoi vous devez l'écouter. Vous devez l'écouter. Première chose, première application donc, c'est de ne pas négliger un si grand salut. Christ, Jésus, l'évangile, doit être central dans notre pensée. Ça, je l'ai dit, j'en ai déjà parlé. Si vous n'avez jamais compris ce message de l'évangile, c'est urgent de le faire aujourd'hui parce que vous n'échapperez pas si vous négligez un si grand salut. Et si vous n'avez pas compris ce message de l'évangile, venez parler avec moi, venez parler avec un des responsables de cette église. On va parler avec vous, on va vous expliquer ces choses-là. C'est urgent de comprendre, parce que vous n'échapperez pas si vous négligez ce si grand salut. Deuxième application de ce texte, c'est qu'on doit être à l'écoute de Jésus. Et comment on est à l'écoute de Jésus aujourd'hui? Il ne parle plus par des mots, puisqu'il n'est plus dans ce monde-ci, mais il nous a laissé tout ça. Il nous a laissé 66 documents qui ont été compilés dans un livre. Et on a cette chance aujourd'hui, ça n'a pas été le cas hein, dans la plupart des époques de l'histoire de l'Église, on a la chance de pouvoir posséder une Bible. Alors lisons-la, prenons le temps de lire cette Bible. Vous savez peut-être que dans notre Église, on a ces petites cartes. C'est un plan de lecture de la Bible. Alors plusieurs m'ont fait la remarque, ouais, ça fait quand même beaucoup, et c'est vrai. Il y a beaucoup de chapitres à lire chaque jour. Si on veut suivre ce plan de lecture. Donc, ne vous sentez pas obligé de tout lire, mais simplement, le but de ça, c'est de nous encourager à prendre du temps pour lire la Bible. Parce que Christ est plus qu'un ange, et ce qu'il nous révèle est tellement important, tellement fondamental. Hier, on était à l'Assemblée Générale de l'Action Biblique Suisse, et on était quatre dans la voiture, on a covoituré pour aller là-bas avec Christian, Nathalie et Hans. Et Hans, il m'a fait cette suggestion. Hans, désolé, je ne t'ai pas demandé, mais je vais la dire à tout le monde. Hein, comme ça, tu... Il s'est dit, mais pourquoi, en fait, on ne prendrait pas le temps? Enfin, vous savez, il y a des petites cartes par mois. Et pourquoi, Hans me demandait, pourquoi on ne prendrait pas le temps, à la fin d'un mois, de se voir avec quelqu'un et de discuter de ce qu'on a lu pendant ce mois-ci? Alors, sachez que Hans est preneur. Donc, si quelqu'un veut faire ça avec Hans, vous pouvez aller le voir. Il sera content de discuter avec vous. Mais vous pouvez aussi le faire avec quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Si vous avez pas du tout commencé ce plan de lecture, pas de problème. Vous voyez, là, il y a la carte de mai. Elle se trouve là-bas au fond. Vous pouvez la prendre. Et vous pouvez vous... C'est une bonne idée, Hans. Merci de l'avoir donné, vraiment. Vous pouvez vous mettre un petit peu d'accord avec quelqu'un d'autre et dire, OK, on se met au défi. On lit le mois de mai ensemble. Enfin, voilà, vous lirez Deutéronome, Jacques, Ésaïe, enfin, une partie d'Ésaïe et puis quelques psaumes aussi. On se lit ça pendant le mois de mai et à la fin... Enfin, donc ça ne commence pas tout de suite. Hein, vous avez quelques jours de rab. Et à la fin du mois de mai, au début, la première semaine de juin, là, on se retrouve et on discute ensemble de ce qu'on a lu. Ce serait génial. Pourquoi? Parce que Christ est supérieur à un ange. Et du coup, ce qu'il dit est tellement important. Troisième application, et je m'arrêterai avec ça, à partir de ce texte, c'est que non seulement on doit lire la Bible, mais on doit aussi lire la Bible d'une manière christocentrique. Je pense qu'il y a un grand mal dans notre monde évangélique, c'est qu'on lit la Bible un petit peu comme un livre de recettes de cuisine. On se dit, ok, je vais lire la Bible aujourd'hui, je l'ouvre au pif et je lis un verset et je me dis, ah voilà, c'est ça que Dieu veut me dire aujourd'hui. Mais en fait, c'est pas ça que Dieu a voulu. Dieu, il a un projet quand il lit la Bible. On était dimanche dernier, vous savez, enfin je sais pas si vous savez, mais on était en vacances, on était à Bruxelles. Et on était dans une église dimanche dernier, et le pasteur a justement donné quelques illustrations intéressantes. Il a dit, quelqu'un avait voulu faire ça, il a ouvert la Bible, et puis il est arrivé sur ce passage qui parle de Judas, et qui dit, et il alla se pendre. Ah, bon, ben... Le gars, il s'est dit, bon, je vais peut-être plus lire la Bible comme ça à partir de maintenant, hein, c'est pas forcément une bonne idée. J'aimerais juste vous dire un petit mot de témoignage. J'ai entendu récemment, justement, un mauvais exemple d'utilisation de la Bible, de quelqu'un que personne connaît dans cette salle, donc n'essayez pas de savoir qui a dit ça. Mais c'était quelqu'un qui se demandait un peu quelle était la prochaine étape pour lui. Est-ce qu'il devait aller dans telle voie ou dans telle voie? Et puis, il est arrivé dans ce texte qu'on a étudié il n'y a pas longtemps, cette lettre à l'église de Philadelphie, au début de l'Apocalypse. Et il a lu ceci, au verset 8, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer parce que tu as peu de... » Non, je m'arrête là. « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. » Et il s'est dit, « Ah oui, là j'ai une proposition récemment, donc ce que le Seigneur est en train de me dire ici, c'est que je dois entrer dans cette proposition. » Mais en fait, ça c'est une mauvaise utilisation de la Bible. Parce que la Bible est centrée sur Christ. La Bible, c'est Christ qui nous la donne, c'est Jésus qui nous la donne. Elle est le livre de Dieu. Et une bonne compréhension de ça, ce serait de comprendre qu'en fait, Jésus est en train de s'adresser à son église. Il est en train de s'adresser à cette église de Philadelphie. Et il est en train de dire à cette église de Philadelphie, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Tu vas pouvoir annoncer l'évangile autour de toi. Tu vas pouvoir rayonner. Il est en train d'encourager cette église de Philadelphie. Alors voilà, cette troisième application, c'est cette idée. Lisons la Bible de manière christocentrique. Posons-nous toujours la question, comment Christ... Et présent. Comment ce texte-là particulier prépare ou explique la venue de Christ? On peut le faire avec tout. Hein. S'il y a un texte où vous dites, là, je ne vois vraiment pas où Christ est présent, on peut en parler. Je ne dis pas que Christ est dans chaque mot de la Bible. Des fois, on en fait trop, hein, en voulant voir Christ un peu partout. Mais quand même, l'ensemble du plan de Dieu, c'est d'arriver à ce point culminant de la personne de Christ. Et on pourrait dire que la deuxième partie du Nouveau Testament est juste là pour expliquer ce que Christ a fait. La personne d'Abraham, ce que Moïse a fait, ce que les rois ont fait, ce que les juges faisaient, ce que les prêtres faisaient, le système des sacrifices, le temple, ce que les prophètes ont annoncé. Et même encore avant, hein, ce que Noé... Je sais que le groupe Entre Elles, vous avez étudié l'histoire de Noé hier soir, hein, la personne de Noé. Toutes ces choses-là sont comme autant de flèches qui pointent vers Jésus. Et si on lit la Bible en perdant cela de notre esprit, en fait, on se trompe. Parce que la Bible est centrée sur Jésus. Parce que Jésus est supérieur aux anges. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il apporte le salut, parce qu'il a toute autorité et parce qu'il s'est fait un être humain. Je vais encore prier. Seigneur, on veut te remercier parce que tu as envoyé Christ, tellement glorieux, Christ supérieur aux anges. Tu l'as envoyé pour nous apporter le salut. Tu l'as revêtu de toute l'autorité nécessaire pour cela et tu l'as envoyé dans notre condition pour qu'il puisse... être solidaire de nous et pour qu'il puisse nous sortir de cette condition, nous sortir, nous sauver de notre péché et rétablir cette relation avec toi. On est émerveillé de ça et Seigneur, on veut te demander à vivre ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ici, d'écouter ce que Jésus nous dit, de faire de Jésus le centre de notre vie, le centre de nos pensées, de lire ta parole et de la lire en gardant Christ au centre de nos pensées. Change ma vie, Seigneur, change nos vies pour qu'on puisse vivre cela, vivre Jésus plus que tout, vivre Jésus plus qu'un ange. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ. Amen.